Bien, écoutez, on va commencer cette conversation. Les auteurs ont déjà commencé à discuter entre eux, donc on va les interrompre. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Merci de votre présence donc pour cette conversation en compagnie de Delphine Grouès et Laurent Binet. Bienvenue parmi nous, messieurs, dames. Très heureux de vous retrouver pour parler avec vous de vos livres les plus récents, de vos nouveaux livres. Cet après-midi, on voyage beaucoup. J'étais là en début d'après-midi avec des auteurs qui nous ont emmenés jusqu'à Salvador de Bahia, jusqu'à Goa, également à Fallujah. Donc voilà, on continue avec le Chili du début du XXe siècle et avec la Florence de la Renaissance, avec vous deux, avec cette rencontre qui s'intitule Fresque historique, fresque sociale. On va évidemment explorer votre travail pendant cette conversation et puis je vous donnerai bien sûr la parole à vous pour que vous puissiez échanger avec les écrivains. Je vais vous présenter l'un et l'autre très rapidement, en commençant peut-être par vous, mon cher Laurent. Bienvenue parmi nous, Laurent Binet. Alors vous n'êtes pas un primo-romancier, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes un vieil écrivain, mon cher ami, mais vous êtes un revenant, comme on dit ici, puisque vous étiez sélectionné au Festival du premier roman de Chambéry, c'était en 2010, pour la publication de HHHH, qui est un livre qui vous avait révélé. Vous avez depuis publié un certain nombre de romans, dont on dira peut-être un mot pendant la conversation, puisqu'il y a évidemment au fil de l'œuvre un certain nombre de résonances qu'on peut trouver, et notamment bien sûr dans le rapport à l'histoire. Vous avez publié La septième fonction du langage, plus récemment Civilisation, qui était une uchronie. On reviendra, puisque ça ouvre tout un tas de perspectives aussi sur le rapport réalité-fiction, évidemment. Et puis, on vous remercie d'autant plus, puisque vous êtes présent, alors que c'est l'ouverture de Roland-Garros, et je sais que vous êtes un grand fan de tennis, puisque vous êtes notamment l'auteur de ce dictionnaire amoureux du tennis. Voilà pour ce petit clin d'œil. Et vous publiez donc ce livre qui s'intitule Perspective, avec un pluriel ou pas, un singulier pluriel sur ce titre. Un livre dans lequel vous nous emmenez en effet dans la Florence du XVIe siècle, avec un livre qui est un polar et qui est en même temps un livre de correspondance, un roman épistolaire. Alors on va en parler évidemment. C'est un polar pur jus et en même temps c'est évidemment un livre qui nous plonge dans les milieux picturaux, dans les milieux du pouvoir et dans les luttes qui ont lieu à cette époque-là en Europe. On va bien sûr y revenir avec vous pendant cette conversation. Et puis vous, Delphine Grouès, vous êtes pour le coup sélectionnée pour votre premier roman qui s'appelle Cordillera, publié au Cherche Midi. Je le disais, vous nous plongez dans ce livre au Chili, dans la première partie du XXe siècle, au pied de la Cordillère des Andes, mais pas seulement au pied, en hauteur également, avec cette famille Silva, dont on va suivre les membres de la famille, à la fois les parents, bien sûr, et puis les deux fils, notamment Esteban et Joaquin, des destins chaotiques, des destins blessés à certains égards, mais aussi des destins de renaissance à d'autres égards, et bien sûr un regard porté sur la vie dans ce lieu, sur le rapport à la terre, à la nature, sur le rapport à la politique aussi, qui est une partie du roman extrêmement intéressante. Donc voilà un petit peu le menu de notre conversation à venir, et comme le disait Laurent, c'est une partie du monde, le Chili aussi, qu'il connaît bien et qui l'intéresse. Donc il y aura sans doute des échanges entre vous. Je vais commencer avec vous, Delphine, vraiment question très très simple, hein, pour vous poser la question. On lit dans votre bio que vous êtes depuis longtemps fasciné par le Chili, que vous arpentez ces territoires de manière très régulière et que ça a été aussi votre sujet d'étude. Donc peut-être nous dire un petit mot de cela, tout simplement le rapport que vous avez avec ce lieu-là et peut-être les raisons de la fascination et donc les raisons de ce livre qui est ancré dans cet espace-temps.
Merci beaucoup et puis bonjour à toutes et à tous et puis merci de cette invitation. Je suis ravie en plus d'être là avec toi, Laurent. Alors cette fascination pour le Chili, elle remonte à plus de 20 ans maintenant. Mon arrière-grand-père était des Hautes-Alpes, j'ai une partie de ma famille en Haute-Savoie, donc les montagnes je connaissais. Et pendant mes études, j'ai eu un cours sur le Chili qui m'a fascinée parce que l'enseignante nous a fait écouter des chants. Et en fait, c'est passé par la musique d'abord. C'était des chansons protestataires juste au moment du gouvernement de Salvador Allende. Et donc, je suis partie là-bas pour commencer un doctorat. Et j'ai vraiment commencé le doctorat parce que j'avais besoin d'un prétexte pour continuer d'étudier le Chili, en fait. Et là-bas, j'ai découvert les légendes, les contes populaires. Je travaillais sur les traditions de ce pays et notamment sur la poésie populaire. Ce qui fait que l'un de mes personnages, évidemment, sera poète dans Cordillera. Et en allant parcourir les campagnes pour recueillir les contes et légendes, notamment des aïeux de ces villages, j'ai découvert aussi ce monde qui m'avait déjà fascinée depuis les lectures d'enfance des gauchos. Alors dans la région de Cordillera, on les appelle les arrieros. Ce sont donc ces gardiens de troupeaux qui vivent à cheval et qui partent dans les montagnes, dans la cordillère, pendant les estives. Et j'ai commencé à les accompagner. Et de là arrive la trame de Cordillera, puisque depuis maintenant 15 ans, je vais parcourir la cordillère à cheval avec un gaucho. Et là, j'ai parcouru de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, donc du désert de l'Atacama, qu'on va retrouver dans Cordillera, jusqu'à la pointe de la Terre de Feu. Et donc, l'écriture de ce livre, évidemment, déjà, j'écrivais depuis enfant. L'écriture a toujours fait partie de mon existence, parce que je suis une grande lectrice aussi, donc les deux allaient un petit peu de pair. Et le fait d'écrire ce roman, c'était déjà le fait d'avoir envie de transmettre cette histoire, transmettre aussi la beauté de ces paysages en France, parce que beaucoup connaissent et d'autres n'y sont pas encore allés, donc c'était cette volonté-là. Et puis surtout pour moi, individuellement, c'était le fait de revivre plusieurs aventures que j'ai vécues dans la cordillère et le fait de me remettre au cœur de cette cordillère, même si j'étais à une table à Paris en train d'écrire.
Alors on parle de fresques historiques, de fresques sociales, mais on pourrait aussi parler pour vous de fresques géographiques, puisque le territoire est presque un personnage à part entière. Il y a à la fois ce village, il y a la cordillère, il y a Valparaiso, il y a le Nord. On a l'impression que c'est un roman qui serait presque à la base un roman géographique. Est-ce que vous l'envisagez comme ça, comme d'abord un lieu, cette histoire-là? Bien sûr que les personnages, on va en parler, et de leur destin, comme je le disais, chaotique, mais on a l'impression que c'est avant tout une géographie que vous arpentez avec vos personnages.
Effectivement, je pense qu'après avoir écrit le livre, je me suis rendu compte de la place qu'avait la nature dans le roman. Et c'est vrai, c'est quasiment un personnage, cette cordillère. Ça n'avait pas été ma première intention, mais en fait, je pense qu'elle est tellement ancrée en moi que peu importe les mots que je choisis ou les métaphores, elles seront toujours puisées dans la nature. Et puis ensuite, c'est vrai que la cordillère au Chili est une boussole, ou en Amérique latine, de toutes les manières. On lève toujours la tête pour savoir où on est, selon où est la cordillère par rapport à nous. Et elle agit un petit peu comme une boussole aussi pour les personnages qui vont se perdre, parfois qui s'arrachent à cette cordillère parce qu'ils doivent partir pour deux des personnages, deux des garçons presque en exil forcé, ils doivent s'arracher de ce cœur de la cordillère pour aller dans le nord ou à Valparaiso. Donc sans dire que c'est un roman géographique, je pense que la nature irrigue l'ensemble des phrases en fait et a façonné aussi mes personnages évidemment.
Il y a une dimension évidemment qui est très forte, c'est ce que vous décrivez dans ce texte, et on le voit à partir des destins notamment de Joaquin et d'Esteban, et très tôt d'ailleurs avec la maladie de Joaquin, c'est la dureté de ces villas, à la fois la dureté dans le rapport à la terre, la dureté dans l'environnement, puisqu'il y a aussi quelque chose de très tendu dans ces espaces-là, la dureté ensuite des mines de salpêtre. Ce sont des vies qui sont à la fois tournées vers une forme de spiritualité et en même temps dans un ancrage, dans une réalité sociale extrêmement dur. C'est cela aussi qu'on ressent au fil du livre, c'est une dimension qui est très forte, en particulier à cette époque-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a une violence, en fait, il y a une violence dans les éléments dès lors qu'on est en haute cordillère, une violence sociale évidemment, puisque cette famille Silva est donc paysanne et les conditions de vie étaient très difficiles. Et ensuite, évidemment, lors des chapitres qui partent dans les mines de salpêtre où Joaquin découvre la réalité des mineurs, là, on atteint un paroxysme de violence énorme parce qu'il découvre la réalité des mineurs qui ont une durée de vie très, très limitée, une exploitation qui est là absolument totale, alors que les paysans étaient soumis à la loi du patron, mais c'était plutôt le côté paternaliste qui primait. Et puis, bien évidemment, on est dans un début de siècle violent, puisqu'il y a une conscience politique qui s'éveille. Mais le roman s'attache aussi à montrer combien des personnages peuvent gérer cette violence, comment les tragédies de la vie peuvent faire place ensuite à une résilience et la beauté qui arrive finalement après les tragédies, vraiment le soleil après l'orage. C'est la solidarité, notamment familiale, le courage. Et puis le fait de se relever alors qu'on a été mis à terre. Et donc il y a plusieurs personnages qui l'incarnent un petit peu. Et c'est un petit peu ce que je vois aussi moi dans la nature finalement. C'est une cordillère qui nous appelle, où on monte et au fur et à mesure, mais bon, vous connaissez bien ça à Chambéry évidemment, mais au fur et à mesure qu'on monte sur les montagnes, c'est comme si on plonge dans le cœur de la terre. C'est vraiment, on se sent happé et au plus proche du centre de la terre. Et au fur et à mesure qu'il monte, les dangers arrivent, mais c'est là où on a la plus belle liberté, c'est là où la beauté juste majestueuse se déploie tout autour de nous. Donc on n'a jamais l'un sans l'autre en fait, et il faut jouer avec ces risques.
Quand ils montent, et puis je vais me tourner vers Laurent, quand ils montent, ils disent qu'ils vont à l'intérieur, ce qui est une sorte de paradoxe apparent, mais qui est aussi une manière de rentrer en soi-même, ou en tout cas d'aller au cœur, peut-être. Pouvez-vous nous dire un mot de cela ?
Oui, alors ça, je ne sais pas si d'autres pays latino-américains utilisent cette expression, mais au Chili, la première fois que je suis partie avec un gaucho, il me parlait toujours, on va à l'intérieur, et je me disais, mais on va camper, en fait. Donc je ne voyais pas à l'intérieur de quoi on allait aller en pleine cordillère à une semaine de la première cabane. Et en fait, j'ai compris ensuite, et je trouve que l'image est magnifique. On va à l'intérieur de la cordillère, parce qu'il faut dire que cette cordillère des Andes, côté chilien, est extrêmement large, et lorsque vous prenez, je ne sais pas si parmi vous, certains ont voyagé vers le Chili, mais lorsqu'on traverse de Buenos Aires au Chili, on a 25 minutes en avion de traversée de la cordillère. Et nous, c'est là où on est, en fait. On est à cet intérieur, au cœur de la cordillère. Mais après, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à l'image, bon, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est un petit peu le rythme, plus qu'aller à l'intérieur, comme si on creusait, en fait. Mais lorsqu'on arrive, moi, j'ai toujours cette étape deuxième jour, voire troisième jour, en fait, de randonnée. C'est à ce moment-là qu'on sent qu'on est happé par une force qui nous amène à l'intérieur alors qu'on est en train de monter. C'est le moment où en fait on sent que la cordillère est absolument partout autour de nous et qu'il est difficile de revenir sur ses pas. Et à partir de ce moment-là, qui est toujours un petit moment, mais maintenant je le connais, donc c'est au fur et à mesure de mes traversées, je sais qu'il arrive, ce sont quelques heures où on se dit « t'es sûr de ton coup là ?» parce que bon, il y a quand même des dangers en face et puis on est en autarcie totale, on est juste deux. Et à ce moment-là, il y a un déclic, et là, c'est en l'immensité de cette liberté où en fait la vie, la mort, c'est la même chose. Les sens s'avivent, se multiplient, et puis on vit des moments d'une intensité que nous donne la nature en fait.
On va revenir bien sûr à ces différents personnages. Je vais me tourner vers vous, mon cher Laurent. Je le disais, plusieurs livres qui ont à voir avec l'histoire. Le premier, évidemment, autour de ce personnage de Heydrich, qui était d'ailleurs un livre qui, d'emblée, était un livre qui était du côté de la réalité, si on peut dire, puisque le personnage se posait des questions sur l'incapacité, finalement, à fictionner. Vous avez ensuite l'auteur, effectivement. Bien sûr, l'Uchronie dont je parlais tout à l'heure, ça fonctionne votre micro, mon cher ?
Je suis assis.
Ah, ça y est.
Si, ça marche.
Impeccable. Et puis, l'Uchronie, où là, pour le coup, on savait en effet que les Incas n'avaient pas envahi l'Europe, mais peut-être nous dire un mot de comment vous voyez ce livre-là par rapport aux autres, puisque là, on est dans un ancrage qui est évidemment très documenté, qui nous amène dans un temps réel, et pour autant, on est dans une sorte de jeu. J'ai parlé du roman épistolaire, du polar. Peut-être nous dire un mot de la manière dont ce livre s'inscrit par rapport au précédent.
Alors, c'est vrai que j'ai écrit quatre romans qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, des romans historiques. Celui-ci est un petit peu... Les trois premiers, donc le HHHH, la septième fonction du langage et civilisation, dans ma tête, alors qu'ils ont a priori rien à voir, dans ma tête forment une sorte de trilogie parce que, d'une façon ou d'une autre, ils interrogent les rapports de l'histoire et de la fiction. D'un côté, il y a HHHH où toute la problématique, c'était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie, comment est-ce qu'on résiste à l'envie de fictionnaliser, alors que évidemment, civilisation, c'est le pôle inverse. Là, c'est vraiment, c'est pas juste larguer les amarres vis-à-vis de l'histoire, mais c'est renverser complètement l'histoire. Et celui-là, d'une certaine manière, s'inscrit dans une tradition plus classique du roman historique. Qui est la tradition d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire que c'est dans un contexte historique précis et reconstitué aussi fidèlement que possible, enfin dans la mesure de mes moyens, à l'intérieur duquel, c'est ce qu'on disait de Alexandre Dumas pour les Trois Mousquetaires, je m'insère dans les blancs de l'histoire en respectant totalement le contexte historique, mais en glissant donc une histoire de mon cru à l'intérieur de ce contexte historique. Donc les guerres d'Italie, la 11e guerre d'Italie, les Médicis, cause le duc de Florence qui est pris entre l'Espagne, la France, etc., etc. Et donc, en fait, Alexandre Dumas, c'est ça, vous savez, les Trois Mousquetaires, c'est basé sur un fait divers, d'une certaine manière, un fait divers réel, qui est l'affaire des Ferré de la Reine. La reine, bon, qui avait offert des bijoux offerts par le roi, qu'elle avait donné au duc de, je sais plus, enfin, son amant anglais. Bon, voilà. Et donc, et D'Artagnan lui-même était un personnage qui avait existé. C'était effectivement le capitaine de la garde des Mousquetaires qui est mort à la bataille de Maastricht, etc. Et à partir de là, Dumas avait inventé donc une histoire totalement romanesque. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai imaginé une intrigue policière dans un milieu qui est donc le milieu de la peinture, mais surtout qui concerne des personnages qui ont tous existé sans exception, en fait, dans mon livre. Le duc de Florence, Catherine de Médicis, Michel-Ange, Pontormo, tous les peintres qui apparaissent, jusqu'à l'ouvrier, le broyeur de couleurs, tout le monde a existé. Simplement, j'imagine, et alors à ce niveau-là, je ne me suis pas tellement renouvelé, finalement, je fais exactement comme dans la septième fonction du langage, où j'imaginais que Barthes n'était pas mort dans un accident de voiture, mais avait été assassiné. Là, j'imagine que ce peintre maniériste, Pontormo, n'est pas mort de sa belle mort, mais a été assassiné. À partir de là, donc je développe toute une enquête. Donc, ce livre-là est classique au niveau en tant que roman historique. Il est aussi classique en tant que roman policier, puisque c'est avant tout un roman policier. Mon idée de départ, c'était dans l'ordre de faire un roman policier, ensuite historique, parce que j'aime ça, et puis enfin épistolaire. Donc l'aspect le plus original, c'est l'aspect épistolaire, mais en tant que roman policier, il est classique, parce qu'il y a une victime, il y a un meurtre, il y a une enquête, il y a des suspects, il y a des indices, et à la fin, il y a une résolution. Donc à ce niveau-là, voilà. Donc celui-là est un petit peu à part par rapport à ce que j'ai fait précédemment.
Et c'est intéressant, évidemment, puisque cette dimension épistolaire, elle participe aussi au roman policier et à l'intrigue, puisque l'ensemble des correspondants que l'on découvre dans le livre sont aussi de potentiels suspects. Donc, vous avez entremêlé, finalement, cette dimension épistolaire avec le polar, et c'est évidemment une des singularités aussi très fortes de ce livre. L'intrigue, elle marche aussi avec cette mécanique-là, finalement.
Oui, vraiment, l'idée décisive, ça a été de faire un roman épistolaire. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, d'abord par orgueil, par vanité. Je me suis dit, tiens, un roman policier épistolaire, ça n'a pas été souvent fait, donc forcément, ça m'attirait. Mais bon, ce n'était pas une raison suffisante quand même. J'ai pensé que ça pouvait créer une dynamique intéressante parce que ça place le lecteur dans la situation de l'enquêteur, à qui on propose des témoignages, des dépositions. Et donc le lecteur doit se faire une idée à la lecture de cette quinzaine de narrateurs qui tous ont des choses à cacher, qui tous sont potentiellement des menteurs, ce qu'on appelle en littérature des narrateurs non fiables. Dans le roman policier, le narrateur non fiable, c'est toujours quelque chose de très, très efficace. Alors évidemment, quand le narrateur non fiable se révèle être le coupable, bon, bah ça, c'est toujours un effet formidable. Simplement, bon, ça a été fait une fois, en fait deux fois par Agatha Christie. On ne peut pas le refaire à chaque fois. Mais le dispositif épistolaire me permettait d'avoir une quinzaine de narrateurs et donc de placer le lecteur dans l'état d'esprit qui, à mon avis, est l'état d'esprit adéquat à la lecture d'un roman policier. C'est un état d'esprit paranoïaque, c'est-à-dire qu'il doit tout le temps se méfier de ce qu'il lit et se méfier de tous ses narrateurs.
Et en même temps, ces narrateurs, ils sont aussi des reflets de l'époque. Vous avez évoqué finalement le temps de la guerre, des frictions politiques, les liens à Catherine de Médicis, etc., qui est une des correspondantes d'ailleurs. Ils sont aussi des reflets de ce qui se passe en toile de fond, d'une certaine manière, par l'intériorité des voix et des personnages. On imagine que c'est tout un travail de documentation pour être très fiable, pour le coup, sur la réalité historique, et une manière de remettre ces éléments-là à l'intérieur des lettres, dans des singularités. C'est comme ça que vous avez procédé?
Oui, c'est-à-dire, bon, bah, mon goût pour l'histoire, l'une des motivations, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est plonger dans un autre monde, hein, bon, ce qui est le principe même de la lecture et du roman, mais disons que dans un autre monde qui a existé à une certaine époque. Et donc, ça me demande en effet beaucoup de travail de reconstituer ce monde dans toutes ses dimensions, toutes ces dimensions sociales, économiques, politiques, etc. Et donc là, pour ce faire, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que le choix de faire de mon intrigue policière, de placer mon intrigue policière dans le milieu de la peinture, c'est-à-dire hein, la victime est un peintre, eh ben, c'était, ça favorisait cette envie de recréer toute la société florentine du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que les peintres étaient au carrefour de tous les milieux sociaux en fait, de l'époque. Les peintres peignaient pour... Enfin, les commanditaires des peintres étaient les rois, les princes, les ducs, etc. Les peintres, et à leur service, il y avait des ouvriers pour lesquels qui travaillaient dans leurs ateliers. Et donc, et à une époque où l'essentiel de leurs sujets étaient des sujets religieux. Donc, il y avait une dimension... Ça me permettait d'aller chercher mes suspects, en fait, dans tous les milieux religieux, les milieux politiques, les milieux donc les motivations étaient les milieux artistiques, puisque bon évidemment que les premiers suspects dans un meurtre c'est l'entourage de la victime. Bon bah l'entourage de la victime ce sont d'autres peintres, hein, ses rivaux, ses amis, ses ennemis, etc., etc. Les motivations religieuses elles étaient aussi très fortes parce qu'il se trouve que à l'époque donc la deuxième moitié du XVIe siècle c'est le Concile de Trente, tout le XVIe siècle, vous savez, c'est l'essor du protestantisme, c'est le début des guerres de religion, et c'est une époque, oui, l'époque de la contre-réforme, hein, c'est la crispation du catholicisme face à l'essor du protestantisme, où le pape Rome, le pape de l'époque était un pape absolument horrible qui s'appelle Paul IV, qui a inventé la mise à l'index, vous savez, interdire les livres pour des raisons, parce qu'on les juge immoraux, dangereux. Bon, il détestait aussi la peinture et il supportait pas de voir tous ces gens nus partout dans les églises. Et ce pape-là voulait détruire la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc, il y avait, c'était tendu au niveau religieux, c'était tendu au niveau politique, parce que le duc de Florence avait toujours... des ennemis parmi les républicains. Vous savez que Florence a été une république à une certaine époque. Bon, et puis parce qu'il se trouve que Florence était les Médicis, vous savez. Et à cette époque-là, il y a une reine de France, Catherine de Médicis, qui se considère comme l'héritière légitime de Florence et donc qui, de France, aurait bien aimé remettre la main sur la ville et la Toscane. Et puis aussi, donc ça, c'était intéressant, j'ai trouvé dans le journal de Pontormo, c'est un petit document très, très intéressant où il raconte sa vie quotidienne dans ses aspects vraiment les plus triviaux. Et notamment, il parle d'un personnage avec lequel il travaille qui est un ouvrier, qui est son broyeur de couleurs. Et ça, c'était une chance inespérée parce que souvent, quand vous creusez dans l'histoire, plus vous éloignez dans l'histoire, plus c'est difficile d'accéder à la mémoire des milieux populaires, si vous voulez. Et là, j'en avais un. Donc ça, c'était super. Et donc, ce personnage-là m'a permis de compléter l'ensemble. Parce que si vous voulez offrir le tableau d'une société à une époque donnée, si vous occultez les milieux populaires, forcément, en général, vous ratez 80% du tableau. Et donc, voilà. Et donc cette position médiane, centrale des peintres me permettait d'offrir un tableau assez complet de la société de l'époque.
Delphine, peut-être un mot sur les personnages. Laurent disait à l'instant que tous ces personnages étaient des personnages ayant existé. Vous, on pourrait presque dire l'inverse, peut-être à l'exception d'un seul. Peut-être nous dire comment est-ce que vous les avez construits, ces personnages, à partir d'un travail de documentation, à partir de gens que vous avez croisés dans vos périples. Est-ce que ce sont finalement, non pas des archétypes, mais en tout cas des symboles, des métaphores, des différentes manières qu'on avait de se situer dans cet environnement-là? Comment vous avez travaillé globalement autour de la création des personnages?
Alors aucun n'a existé effectivement, là c'était la grande liberté de pouvoir inventer des personnages et surtout la beauté d'en voir naître alors que je n'avais pas prévu. Donc, mais je pense que j'ai rencontré tellement de personnages de ces campagnes qu'en fait chacun d'entre eux était un petit peu comme une cristallisation de beaucoup de personnes que j'avais pu rencontrer. Donc les personnages comme Esteban, c'est vraiment, ce sont les poètes populaires qui m'ont inspiré, les troubadours. Joaquin, sont mes amis gauchos avec qui je pars là-haut, où il y a toujours le côté un petit peu rebelle, mais avec un grand cœur en dessous de quelques ponchos. Et puis après, les parents Cecilio et Luisa, là je suis entrée peut-être plus dans l'archétype. Alors Cecilio, c'est le traumatisé d'une guerre. Donc il se trouve que c'est la guerre du Pacifique au Chili. C'est une guerre qui a eu lieu entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. Elle est notamment connue parce que la Bolivie a perdu son accès à la mer pendant cette guerre-là. Donc parfois on le voit à La Haye, il y a encore des dissensions entre les pays. Mais cela aurait pu être une autre guerre ou dans un autre endroit. Donc il est traumatisé par cette guerre, ce qui fait qu'il a un lien particulier avec le patron aussi, qu'il a emmené en fait là-bas comme une chair à canon, comme ce que faisaient les patrons à ce moment-là. Ils emmenaient leurs payons pour montrer combien ils étaient patriotes. Et puis c'est aussi pour cela que, par rapport à ses fils, il est très protecteur. Et Joaquin, qui est le plus rebelle, ne comprend pas son père de ce fait-là. Et ensuite, il y a Luisa, qui est donc la mère des deux garçons, d'origine mapuche. Et elle, c'est vraiment le lien avec la terre, mais comme les autochtones l'ont sur cette terre de Cordillère. Et puis avec toute l'aura de mystère et de magie qu'ont les mapuche aussi, qui parlent aux plantes, qui sont des guérisseurs, qui sont très en lien avec les éléments, mais qui ont aussi un passé très violent puisqu'ils ont été massacrés à la fin, notamment, enfin depuis la conquête de toutes les manières, mais notamment à la fin du 19e siècle où là les armées étaient bien mieux équipées et ça a été vraiment à la fin un massacre énorme. Alors ils existent encore, mais ensuite il y a des autochtones qui n'existent plus dans l'extrême sud. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages dans le nord qu'on voit qui sont façonnés aussi par une autre histoire et un autre destin. Mais ensuite, pour revenir à la famille Silva, j'ai aussi la figure des grands-oncles qui sont chacun une grande influence pour chacun des garçons. Donc un grand-oncle qui est le chef de la tribu, en fait, des arrieros, des gauchos, qui est le modèle de Joaquin. Et un poète aveugle qui est l'autre grand-oncle, lui qui va battre les sentiers pour proclamer les poèmes populaires et gagner son pain ainsi, et qui prend Esteban avec lui lorsqu'il est enfant, comme c'était souvent le cas où des petits garçons accompagnaient des aveugles en étant un petit peu le bâton de vieillesse. Et c'est ce grand-oncle qui va l'initier à l'amour de la poésie, des poèmes et des rimes.
Vous vouliez dire poser une question ou dire un
non,
mot
non,
dans
non,
Laurent.
Juste les Mapuches, oui, et c'est eux qui ont le plus résisté aux conquistadors. Hein, je crois plus que les Sioux, les Comanches, les Espagnols n'ont jamais réussi à vaincre les Mapuches. Hein, et c'est, je crois que c'est Almagro, il y a Pizarro qui conquit le Pérou. Il dit à Almagro, donc son lieutenant, enfin son associé, il dit bon bah tiens, moi je te laisse le Chili. Et Almagro, il a jamais pu conquérir le Chili parce que les Mapuches, il a jamais pu venir à bout des Mapuches.
Ça, c'est l'une des tragédies, effectivement, c'est que ceux qui massacrent les Mapuches, ce sont les Chiliens, en fait, qui ont leur indépendance parmi la première au début du 19e siècle. Et c'est l'armée chilienne qui va massacrer les Mapuches, qui étaient vus comme les sauvages, évidemment, avec ce conflit toujours barbare, sauvage, et qui ensuite gagneront, constitueront un mythe pour le Chili, même si aujourd'hui ils sont encore en proie à pas mal de discrimination, même beaucoup, et ils sont en conflit direct avec le gouvernement actuellement.
Laurent parlait tout à l'heure d'Alexandre Dumas et vous évoquiez à l'instant les deux fils, Esteban et Joaquin, et leur rapport aux grands-oncles. Et on pourrait dire que ça se rapproche presque d'une tradition littéraire qui s'appelle le roman de formation ou le roman d'apprentissage. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a le départ, il y a l'apprentissage, il y a le passage à l'âge adulte, il y a le mentor. Il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec presque une tradition littéraire. Est-ce que ces trajets-là, vous les envisagez comme des initiations, oui, ou comme des romans de formation, quelque chose de cet ordre ?
Le roman d'apprentissage, oui, très, très certainement. Effectivement, parce qu'on commence avec des enfants qui vont vers l'âge adulte. Mais en fait, ce qui m'intéressait au-delà de ça, c'était vraiment la transformation des personnages. Et le fait que, comme la nature qui est toujours fluctuante, les personnages, c'est la même chose. Et on peut partir d'un parti pris sur certains d'entre eux, mais ils se transformeront de toutes les manières. Et c'est ce mouvement-là, moi, qui m'intéresse, et notamment dans la littérature. C'est le fait de pouvoir poursuivre des mutations et puis s'intégrer un petit peu dans les interstices de ce que fait l'âme intérieure. Donc oui, c'est une grande tradition. Et puis ensuite, je suis toujours très intéressée, moi, par la notion du temps. Donc il y a le temps de la nature qui nous dépasse complètement. C'est pour ça qu'il y a un symbole avec un grand chêne à l'orée du village qui, lui, reste alors que toutes les générations passent. Et puis, c'est aussi ce temps qui façonne les êtres et qui est une tragédie lorsque, évidemment, il y a des morts brutales parce que des vies sont coupés, mais c'est aussi le temps qui aide à réparer et à pouvoir continuer d'avancer.
Le livre, d'ailleurs, se déroule, alors je sais pas, peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Et il y a en même temps des ellipses, il y a des trous, il y a ces vols de condors qui amènent finalement un petit peu plus loin. C'était important pour vous d'avoir ce rapport justement à une longue durée, une manière de comprendre les choses sur une évolution et en même temps de laisser des blancs. Laurent parlait de blanc tout à l'heure.
Oui, pour moi, laisser le blanc, c'est aussi laisser la liberté au lecteur, en fait. Et le fait de dire, ben voilà, là, je vous explique, on est passé de 4 ans après, et le lecteur a la possibilité d'imaginer ce qui a pu se passer pendant les 4 ans, et on retrouve le personnage qui est en train de lutter pour essayer de s'en sortir ou qui a changé. Donc pour moi, oui, c'est un petit peu jouer avec cette manivelle du temps, et ça, c'est notre grande liberté à nous, c'est pouvoir d'inventer ce que l'on souhaite. Ou alors, en sens inverse, c'est de se focaliser sur un moment, une seconde précise. Et le fait de dire en 3 phrases, je peux vous dire qu'on a passé 4 années, mais je peux écrire 5 pages sur une seconde qui est une seconde déterminante pour quelqu'un. Donc c'est aussi le jeu narratif et le jeu du rythme, du style que j'aime bien, moi, employer, entre une vitesse parfois et de longues phrases, et puis ensuite des moments un peu plus hachés et un petit peu plus percutant.
Laurent, peut-être là-dessus, puisque dans Civilisation, pour le coup, il y avait plusieurs siècles. Là, on est dans le temps d'une enquête, on est dans quelque chose de plus resserré. Il y a à la fois le huis clos de Florence, même si on parle les lettres, on va à Rome, on va évidemment en France avec Catherine de Médicis. Il y a le huis clos, effectivement, du lieu. Et puis, il y a un temps très resserré, qui est évidemment le temps de l'enquête. Comment vous l'envisagez, ce rapport à la temporalité du roman ?
Ben ça, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est décisif, les questions de rythme. Genette, il a théorisé ça. Il appelle donc l'exemple canonique, c'est Flaubert hein, qui dit dans l'éducation sentimentale, il voyagea. Et boum, en 2 mots, vous avez 10 ans. Donc ça, il appelle ça le sommaire. Et au contraire, quand on prend son temps pour décrire un moment bref, c'est la scène. Et je crois qu'il y a une troisième catégorie, c'est la pause. Bon, la pause, c'est les descriptions. Voilà. Mais ça, c'est bon, c'est comme en musique. Hein, en musique, vous avez et le moment. Enfin, souvent, les moments les plus jouissifs, c'est le break. Le break, soudain, paf, une seconde de silence, et puis ça repart. Et en fait, c'est ce qui donne du relief, en fait. Hein, c'est un outil incroyable. Moi, d'une certaine manière, là, les variations, elles sont plus d'un livre à l'autre, parce que c'est vrai que Civilisation. C'était en gros des Vikings à la bataille de Lépante à la fin du XVIe siècle. C'était plus de 500 ans en fait. C'était 600, 700 ans. Là, c'est globalement sur une année. Bon, parce que voilà, enfin, à moins qu'on fasse un truc de cold case très très long. Bon, c'est une enquête policière. À un moment, il faut qu'elle se résolve quand même. Donc là, on suit la progression de l'enquête. Il y a sans doute moins de variations de rythme, mais c'est vrai que ces moments de, enfin il y a tout, si, mais en fait si quand même, il y a une scène dans le livre, il y a une scène qui est une, il y a plusieurs scènes de KPDP si vous voulez. Alors c'était compliqué les scènes de KPDP dans un roman épistolaire, mais enfin bon voilà, à certains moments donc notamment l'enquêteur Vasari, à un moment il est agressé par un assassin commandité par, enfin bon vous verrez si vous lisez le livre, et lui bon c'est pas du tout un homme d'action, et là c'est une scène que moi je conçois vraiment, enfin de façon cinématographique, c'est-à-dire avec beaucoup de ralentis. Souvent j'ai des scènes de western en tête, mais là cette scène-là je l'appelle, j'ai toujours appelé quand j'avais cette idée de la scène de très tôt, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'appelle la scène Matrix, parce que donc le livre s'appelle Perspective, parce que ça renvoie à plusieurs choses, mais aux lois de la perspective picturale. Hein, vous savez, c'est là quand les peintres découvrent les lois de la perspective, et donc au début ils font beaucoup de tableaux avec des sols à damier qui et ces lignes de fuite, vous savez, qui vont comme ça. Et donc là j'ai imaginé que c'est mon enquêteur Vasari, qui est un peintre, qui est un critique d'art, en fait, qui n'est pas du tout un homme d'action. En fait, ce qui va le sauver, c'est le souvenir soudain des lois de la perspective, où là,
donc dans une espèce d'effet de ralenti que j'essaie de recréer, il ramasse une arbalète et il vise et il voit les lignes de fuite qui vont droit sur, entre les deux yeux de son agresseur. Et donc, ça me faisait penser, parce que dans mon souvenir, le film Matrix, il y a des moments où l'image, sur l'image se superposent des lignes de code, je crois. Mais disons que l'image devient quadrillée, comme on quadrille les peintres, hein, quadriller leur toile pour le respect des proportions, etc., etc. Et donc ça, c'est des moments, évidemment, où le temps ralentit. Et donc, je reviens à mon livre d'avant, hein, Civilisation. La scène centrale de Civilisation, c'était la capture de Charles Quint par l'empereur Inca Atahualpa, qui était la scène miroir de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. C'est quand Pizarro tend un piège à l'empereur Inca Atahualpa et lui donne rendez-vous sur une place dans une petite ville, dans une ville pas petite d'ailleurs, une ville Inca, et le capture en fait. Le Atahualpa arrive avec son armée, 30 000 personnes, bon. Et donc cette scène-là, vraiment, je l'ai pensée entièrement comme un western, avec là un moment de ralentissement de à la Sergio Leone, vous savez, hein, la poussière, le soleil, la musique qui monte, les personnages qui s'approchent, et puis un moment, le prêtre jette la Bible par terre, et là on déclenche l'action. Et donc c'est vrai que bah ouais, ce qui est capital pour le tout type de narration, c'est le rythme, évidemment. Ouais.
Delphine, peut-être pour revenir à ce personnage d'Esteban, vous avez évoqué le lien au poète et on pourrait aussi parler du rapport à la conscience politique dans son apprentissage. Il y a ce départ à Valparaiso que vous décrivez d'ailleurs, là aussi il y a la Florence et il y a Valparaiso, mais c'est aussi un moment où finalement c'est une sorte de microcosme où le personnage d'Esteban va comme ça mûrir d'un point de vue politique et comprendre un certain nombre des enjeux qui sont à l'œuvre dans ce temps-là, et ça ne se situe pas précisément dans le village d'origine. C'est finalement une prise de conscience politique qui a lieu dans l'espace de la ville. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de ça. Pourquoi est-ce que vous aviez envie aussi de mettre en jeu à la fois cette dimension-là, très forte à cette époque, et comment est-ce que ça joue avec le rapport ville-cordillère ?
Effectivement, en fait, l'idée d'envoyer Esteban à Valparaiso, c'est d'abord parce que Esteban va donc être brisé par une tragédie et doit partir. Et donc, il fallait bien l'envoyer quelque part. Or, c'est un typographe, enfin, il était aspirant à être typographe. Et la grande ville de la typographie était Valparaiso à ce moment-là. Et donc, Valparaiso, au début du XXe siècle, comme il n'y avait pas encore le canal de Panama, tout le monde passait par Valparaiso, et notamment les anarchistes et les révolutionnaires qui allaient se réfugier là-bas. Et c'est de là aussi que part une grande conscience politique. D'abord dans le Nord avec les mineurs, mais finalement l'organe vraiment de la conscience politique se passe à Valparaiso avec les influences multiples. Et ce qui m'intéressait aussi avec cela, c'est qu'à la fois ils voient ce qui se passe, sans pour autant s'intégrer dans des mouvements politiques, ils regardent un petit peu de l'extérieur, mais c'est aussi Valparaiso qui est le théâtre de la révolte personnelle d'Esteban contre la vie qu'il a lâchée en fait. La vie qu'il a abandonnée, qu'il a trahie, alors qu'il a aimé fortement, qu'il aimait les mots. Et il se retrouve à être typographe à un moment, il veut tout faire exploser en disant « mais la poésie m'a trahi, ça c'est quelque chose pour les faibles, voilà, de toute façon on se fait tout savoir ». Donc lui il est dans cette révolte personnelle où il sombre aussi dans l'alcool et ensuite va se faire aider par un blessé de guerre justement. Et il est témoin de ces protestations qui sont en train de prendre corps, et il rencontre le seul personnage effectivement historique qui est vraiment vécu. Il le rencontre, c'est Reca Barren qui fondera le parti communiste, mais qu'il trouve lui aussi finalement ce grand combattant de la paix sociale, complètement démotivé et assez déprimé aussi, ce qui était le cas en réalité, parce que la ville avait beaucoup malmené Reca Barren. Et donc voilà, c'est Valparaiso, ce théâtre-là, en sachant que Joaquin, lui, va avoir l'éveil de la conscience politique, mais du côté des mines, sans vouloir pour autant non plus s'engager et militer, puisque ces deux garçons, qui sont vraiment des garçons de la cordillère, sont des garçons de grande liberté et ne veulent pas intégrer un groupe qui puisse être dirigé par un homme, parce qu'ils ne font pas confiance en fait à la nature humaine.
Vous parliez de la poésie au début, des poètes. Il est question à la fin du livre de Neruda. Peut-être vous pouvez nous parler aussi de cela. Comment est-ce que vous avez travaillé autour de ces figures de poètes, de troubadours? Vous disiez que ça avait été un de vos sujets d'études. Comment est-ce que ça a irrigué le texte? Peut-être l'écriture, peut-être la forme, la façon dont vous avez envisagé aussi ce rapport à la langue, tout simplement, et à la narration du livre, ou en tout cas à son contenu.
La poésie chilienne est forcément une grande influence, en fait, déjà dans les personnages, mais ensuite peut-être aussi dans ma manière de voir la cordillère, la nature et puis les personnages qui s'y trouvent. Alors Neruda, j'ai choisi de faire un clin d'œil à Neruda à la fin parce qu'il était de cette région-là. Et donc il y a un moment, un de mes personnages est dans sa ville de naissance, Esteban, et en fait même envoie une petite pique à Neruda en disant bon, Neruda est encore dans la période des poèmes d'amour et pas encore dans la période politique, et donc à lui dire bon, bah, la vie se chargera de lui enseigner une leçon et ensuite changer sa poésie pour qu'elle devienne un peu plus costaude et politique. C'est pour ça que j'ai cité Neruda, et il y a aussi en incipit quelques vers de Gabriela Mistral, qui pour moi est une grande maîtresse dans la poésie. Alors déjà, c'est une figure importante, c'est une femme qui a gagné le prix Nobel de littérature en 1945, la première poétesse d'ailleurs à le faire, et la première latino-américaine. Et elle venait du nord du Chili, et elle avait un rapport justement à la nature et à la Pachamama, à la terre-mère, très particulier. Et là, je sais que son œuvre est en train d'être traduite, et a été traduite en grande partie en français, mais je souhaite beaucoup de courage aux traducteurs parce que c'est très difficile à le percevoir tellement la langue espagnole est enracinée dans sa vallée du Nord. Donc oui, la poésie est là. Et puis ensuite, je pense que la poésie et la musique, tu le disais, la musique et les silences dans un morceau de musique, m'a beaucoup influencée aussi dans les sonorités, dans les phrases. Et ça, plusieurs fois, je choisis des mots pour les sonorités plus que pour les sens, parce que c'est ce qui nous permet de transmettre mieux des perceptions, des émotions, ou parfois même des images, plus que de décrire très objectivement une image, le fait de la faire sentir. Et là, c'est là où les sonorités peuvent aider, le rythme peut aider, c'est beaucoup plus efficace, et puis en termes d'écriture, c'est toujours plus intéressant aussi.
Laurent, peut-être sur les voix, vous, en ce qui vous concerne, puisque ce sont évidemment des lettres, les personnages existent par l'écriture, par la langue, par la voix. Vous disiez tout à l'heure que c'était tous des personnages réels. J'imagine que vous n'avez pas trouvé des documents ou des ancrages réels pour donner voix à chacun d'entre eux. Comment vous avez travaillé autour de ça, précisément? Comment est-ce qu'on sent à un moment donné qu'on est juste ou qu'il y a quelque chose de pertinent dans la voix, dans le rapport au monde, dans la façon de s'exprimer? J'imagine que c'est un des gros travaux, puisque tout passe évidemment par les lettres et par la voix des personnages.
Oui, c'est-à-dire que j'étais confronté à une double contrainte contradictoire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une homogénéité de ton qui évoque le XVIe siècle, et à la fois, il fallait distinguer les voix. Donc c'était... il fallait opérer dans la subtilité. Ensuite, il y avait deux types de personnages, ceux dont j'avais abondance de documents écrits. Michel-Ange, il a laissé une correspondance pléthorique, donc j'avais énormément de modèles de la façon de parler, d'écrire de Michel-Ange, en plus des lettres, donc c'était parfait. Non seulement j'avais des modèles, mais en plus je ne me suis pas gêné pour, autant que faire se peut pour garantir l'authenticité de la voix de Michel-Ange, de piocher autant que je pouvais et de recopier des citations, des phrases qui pouvaient s'insérer dans mes propres lettres fictives. Donc il y a plein de phrases vraiment de Michel-Ange qui sont dans la correspondance de Michel-Ange. C'est le cas alors pour Vasari aussi. Vasari, donc, c'est en tant que critique d'art, il a écrit donc un livre qui s'appelle Histoire des meilleurs la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Bon, à chaque fois que je fais parler et que je veux que Vasari donne son avis sur un des autres personnages, bah, j'allais voir ce qu'il disait dans son œuvre. Donc Vasari, Michel-Ange, c'était assez simple. Il y a un personnage donc, qui m'a posé des problèmes, c'est Marco Moro. Alors Marco Moro, ok, c'est un ouvrier, il a existé, mais ensuite, c'est-à-dire Pontormo, il explique comment il se fâchait avec lui parce qu'il ne lui avait pas apporté son matériel ou je ne sais pas, etc., etc. J'en savais pas beaucoup. Mais du coup, alors, j'ai résolu le problème, enfin, j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai trouvé quelque chose qui m'a permis de dessiner ce personnage.
C'est un texte de Machiavel dans ses Histoires florentines qui raconte une révolte d'ouvriers en 1378 à Florence, qu'ils appellent la révolte des Ciompi. Ciompi, parce qu'on pense que ça voulait dire compère, compagnon dans le dialecte toscan. Bon. Et donc, cette révolte-là, c'est quelque chose vraiment de passionnant, parce que c'est une révolte, certains la considèrent comme la première révolte prolétarienne. En fait, c'est intéressant de penser à ce qu'était Florence, l'Italie, cette époque-là, 14e, 15e siècle, 16e siècle. En fait, c'est la naissance du capitalisme. Les républiques en Italie, c'est des banquiers et des industriels qui font du textile, quoi. Donc bah, ça, industrie, banque, ça s'appelle le capitalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la naissance de cette industrie-là, quasiment tout de suite, il y a eu des révoltes d'ouvriers qui se sont fédérés entre eux, qui réclamaient des augmentations de salaire, hein, comme toute revendication sociale, et qui réclamaient aussi, ça je trouvais ça fascinant, le droit de se réunir. Le droit de se réunir, c'est quoi ? C'est le syndicalisme, en fait. Et donc, c'est fou parce que je me disais, ce personnage Marco Moro, en faire une figure de proto-syndicaliste, ça fait un peu anachronique. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que non seulement ça existait au XVIe, mais même au XVe et au XIVe siècle, puisque cette révolte, c'était 1378. Donc j'en ai fait un héritier de ce... Et là, je me suis basé entièrement sur le texte de Machiavel.
Un mot aussi peut-être sur les références, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de romans épistolaires, on a quelques titres qui nous viennent en tête, et puis aussi des manières finalement. Et j'aurais aimé que vous nous parliez de la préface, parce qu'on a l'impression que la préface est quelque chose qui fait partie de l'organisation d'un roman épistolaire, comme si c'était des codes, ou d'une certaine façon.
Absolument.
C'est comme ça que vous l'entendez également ?
Absolument, hein, c'est-à-dire tout roman épistolaire, donc la grande époque du roman épistolaire, c'est 18e siècle, hein, bon, les liaisons dangereuses, mais pas que. La Nouvelle Héloïse de Rousseau, c'est un roman épistolaire. En Angleterre, il y a un roman qui s'appelle Pamela de Richardson, qui est très peu connu en France, mais qui a été un moment important dans l'histoire dans toute l'histoire du roman, qui est un roman épistolaire. Et tous ces romans commencent de la même façon, hein. C'est un narrateur qui dit, j'ai trouvé dans une vieille caisse, j'ai trouvé cette correspondance, je pense que ça peut être intéressant, je vous la donne. Et donc, du coup, j'ai fait la même chose. Le paradoxe étant que pour moi, donc c'était une manière de poser le pacte de lecture. Vous allez lire un roman épistolaire. Le paradoxe étant que, en prenant la suite de cette convention, c'est-à-dire que je donnais au lecteur le signe qu'il va lire un roman épistolaire en prétendant avoir trouvé des vraies lettres, etc. Au point que une ou deux personnes de mon entourage m'ont demandé, mais tu les as vraiment traduites, ces lettres ? Tu les as vraiment, t'as trouvé ?
Bon, voilà. Ça aurait été miracle quand même de trouver autant de lettres.
Oui, hein, c'est la correspondance est très complète et très bien reconstituée. Mais donc juste pour finir sur cette... voilà, et donc je me suis amusé à signer cette préface B, parce qu'il y a une ambiguïté entre Binet et Henri Bell. Henri Bell, c'était le nom de Stendhal. Et en fait, toute cette préface est truffée de références, de citations même de Stendhal. Et tout ce que je dis dans cette préface en disant « Ah oui, moi, je préférais l'école de Bologne, etc. » Moi, je ne connais pas bien l'école de Bologne. En fait, c'est Stendhal qui préférait l'école de Bologne.
Ouais, vous aimez
Évidemment, parce que les chroniques italiennes, etc. Parce que Stendhal a beaucoup écrit sur l'Italie, sur Florence et sur...
Dans Civilisation, il y avait ce rapport aussi au pastiche presque. Vous êtes un écrivain qui aimait le... je ne sais pas si le pastiche est le bon terme, peut-être.
Si, techniquement, c'est le bon terme. La parodie, ce serait pour se moquer. Le pastiche, c'est juste de l'imitation. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose, en fait, pour donner l'image, pour reconstituer un cadre. Le Civilisation commençait à l'époque des Vikings. Bon, ben, alors évidemment, pour plonger le lecteur dans l'époque des Vikings, on peut mettre des dracars partout, ce que j'ai fait hein, aussi. Mais en fait, le mieux, c'est quand même le texte, si vous voulez. Donc, cette partie sur les Vikings a été écrite à la manière des sagas islandaises du XIIIe siècle qui racontaient les histoires de Vikings. La dernière partie autour de la bataille de Lépante, je la raconte à la manière de Don Quichotte parce que mon personnage principal, c'est Cervantes. Et donc voilà, là, c'est-à-dire dans perspective, bon, bah, j'essayais régulièrement aussi de trouver le Catherine de Médicis. Elle parle à la manière de Machiavel, puisque c'est un personnage machiavélique, voyez. Et mais aussi, comme c'est un roman épistolaire, donc qui se réfère au XVIIIe siècle, à la manière de Madame de Merteuil. Et c'est vrai qu'il y a j'ai essayé de créer beaucoup de couples de personnages. Catherine de Médicis et sa nièce Maria de Médicis, c'est Merteuil. Et Cécile Volange. Pontormo, bon, il n'a qu'une seule lettre parce que le pauvre, il meurt au début, hein, mais Pontormo et Bronzino, dans la, Bronzino qui a été l'élève de Pontormo, Pontormo était, comme Michel-Ange, un personnage très acariâtre, très colérique, très bon, et Bronzino était beaucoup plus souple, beaucoup plus sociable. J'avais en tête Alceste et Philinte dans, dans le Misanthrope de Molière, vous voyez. Donc c'était voilà, il y avait plusieurs stratégies pour dessiner, pour encore une fois pour créer du relief aussi.
On pourrait dire que c'est une suite de Lorenzaccio aussi. On a déjà parlé de Musset ensemble.
Bien sûr, absolument, puisque Lorenzaccio, c'est l'histoire du meurtre de Alexandre de Médicis par son cousin Lorenzo, Lorenzino, Lorenzaccio. Et celui qui succède, c'est très intéressant d'ailleurs politiquement. En fait, ça renvoie à un truc. De quand j'étais petit, à la fin de Lorenzaccio, je l'ai eu au bac, je l'ai ensuite à l'agrégation, enfin bon, j'ai beaucoup travaillé sur Lorenzaccio. À la fin de Lorenzaccio, hein, c'est un drame mélancolique, alors évidemment, Musset, il est déprimé, tout le monde est déprimé, et tout est très pessimiste. Alexandre de Médicis, le tyran, se fait tuer, et on arrive à placer à sa place Cosimo de Médicis, et la conclusion de Musset, c'est « ouais, en fait, rien n'a changé ». Parce que c'est pareil, quoi, Cosimo, Alexandre. Et moi, je m'étais toujours demandé, mais est-ce que c'est vraiment pareil ? Et en fait, non, pas du tout. Cosimo, à sa manière, était un tyran, mais autant Alexandre était bon, un débauché qui n'avait aucun sens politique, autant Cosimo était un très grand chef d'État. Et donc, c'est vrai que ce Lorenzaccio, ça m'a suivi, en gros, sans que je le sache, toute ma vie, jusqu'à il y a quelques années, là où j'ai écrit ce livre.
Dernière question, Delphine, puis je me tourne vers le public. On n'a pas évoqué ces deux types de narration qu'il y a dans le livre avec les passages en italique, cette voix. Peut-être nous parler de l'articulation, la manière dont vous avez construit cette mécanique-là, ce que ça vous a apporté dans la narration et dans la manière de rendre compte. C'est quelque chose qui a été présent dès le début de la construction et de l'écriture du livre.
Effectivement, donc le livre est écrit à la troisième personne, mais les premières lignes que j'avais écrites étaient écrites à la première. Et en fait, cette voix m'a suivie tout au long du roman. Donc c'est une voix en italique, c'est une voix féminine. Et on ne sait jamais quel âge a ce personnage, puisqu'elle est parfois très enfantine et parfois a une sagesse qui montre beaucoup d'années d'expérience aussi. Donc là, j'ai beaucoup joué avec, évidemment, le réalisme magique latino-américain. Et ensuite, c'est une voix qui m'aide, on parlait de temporalité, à plusieurs moments du roman, de suspendre le temps. Donc, soit d'annoncer qu'on avance vite, soit juste de le suspendre à des moments clés, en donnant parfois des clés de lecture. Et parfois, le fait de me donner cette liberté de m'arrêter sur une scène en me focalisant sur un détail, comme une touche de peinture, et me donner cette liberté-là, parce que c'est une voie poétique, et donc là, on peut partir assez loin. Et ensuite, on parlait de rythme, c'est aussi une voie qui intervient à des moments du récit où je souhaite juste que le lecteur reprenne son souffle, et ensuite qu'on reparte vers quelque chose de nouveau, parce que je suis très sensible à ce que tu rappelais, Laurent, sur les silences en musique, parce que moi, j'ai toujours été fascinée lorsqu'on est à un concert, le silence avant que ça ne commence, ou le silence où il y a juste la dernière note, un silence et ensuite l'applaudissement. Et je trouve que ce sont des moments d'écoute très intenses, ces moments où il n'y a rien en fait. Et là, ce moment de narration en italique, pour moi, c'est un petit peu cette optique-là, même si je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est comme ça qu'elle s'est imposée ensuite dans l'écriture.
Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux, et puis je vais me tourner vers vous, pour que vous puissiez prendre la parole et échanger avec nos deux invités. Il y aura bien sûr dans la foulée de la rencontre un temps de dédicace juste derrière vous. Mais il est temps désormais, si vous souhaitez prendre la parole, on vous fait passer un micro. Très discipliné. Pas de questions dans le public ? Alors, je vais me permettre d'en poser une dernière à Delphine et puis on s'arrêtera peut-être là-dessus. Si vous souhaitez reprendre la parole. Oui, on discutait juste avant tous les deux, Delphine, et je pense que ça intéresse peut-être le public, de la manière dont vous envisagez aussi la suite de l'écriture, puisqu'un premier roman, c'est évidemment un passage important. Vous me disiez que vous étiez déjà reparti sur le deuxième, donc l'œuvre est en cours. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot.
Oui, je suis effectivement en train d'écrire le deuxième et là je suis emportée un peu par une plume, je ne m'attendais pas en fait que ça aille aussi vite, j'avoue. Mais ensuite j'ai repris, donc, comme vous le disiez, c'est une saga familiale avec plusieurs personnages, Cordillera. Et sans vouloir tout dévoiler, parce que ça se trouve, je vais partir sur une autre piste après, hein, mais je reprends la petite fille qui naît à la fin et je me focalise sur son histoire plusieurs décennies plus tard et en Patagonie. Donc ça sera un roman différent et ça n'est pas une suite, mais c'est juste que je n'ai pas pu me séparer des personnages. Et donc ils m'accompagnent pour, enfin l'une d'entre elles m'accompagne pour le prochain roman. Donc là aussi j'ai mon mentor à côté qui est un personnage en fait.
J'imagine que vous espérez que ce livre soit traduit en espagnol.
Il est en cours.
Il est en cours.
Il est en cours de traduction. Et la chance que j'ai, c'est que le premier qui fait la tentative est un écrivain chilien qui est en train de s'emparer du roman. Parce que lorsque, là, c'est vraiment, il y a une réalité extrêmement chilienne et très enracinée dans la campagne. Donc s'il est traduit en espagnol, les Chiliens ne comprendraient pas du tout si le langage n'est pas celui que l'on a dans les campagnes espagnoles. Donc j'ai hâte de lire cette traduction. Là, ça doit être encore autre chose. De lire ces lignes dans une autre langue. Ouais.
Bien, mais je vous renvoie en tout cas aux deux livres dont on a parlé. Perspective de Laurent Binet, c'est chez Grasset. Cordillera de Delphine Grouès, c'est au Cherche Midi. Et vous pouvez... Ah ben allez-y, je vous en prie. Ah, un peu plus tard, il n'était plus temps.
Moi, j'ai une question pour Laurent Binet.
Allez-y.
Alors, le roman s'appelle Perspective. Je dis que j'ai une question pour Laurent Binet. Le roman s'appelle Perspective. Il y a une lettre magnifique de Laurent Binet Michel-Ange sur la perspective en peinture. Mais moi, ma question, c'est pourquoi il a mis un S au titre de Perspective ?
Eh ben, en fait, j'arrivais pas à me décider entre les deux sens du terme perspective, la perspective au singulier, c'est-à-dire la perspective des lois picturales de la perspective, hein, ce que je vous disais tout à l'heure sur les lignes de fuite, etc. Et puis les perspectives au sens des multiplicités, de la multiplicité des points de vue, puisque voilà, ça renvoyait au registre épistolaire et au roman par lettre.
Moi, j'ai une autre question pour Laurent. D'où vient le choix de que tous les personnages écrivent de la même manière, avec le même niveau de langue ?
Non, alors, moi, je ne trouve pas du tout qu'ils écrivent de la même manière, mais c'est-à-dire, je sais que c'est ce que m'a reproché le masque et la plume. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait qu'il y ait une homogénéité qui évoque à la fois le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Bon, de toute façon, à partir du moment où les personnages savent écrire, ils ont forcément un certain niveau. Mais Marco Moro écrit, quand il commence un tract par un spectre hante l'Italie, le spectre des Tchompi, il écrit comme Karl Marx, puisque c'est une réécriture du manifeste du Parti communiste. Marianne Médicis n'écrit pas du tout comme Strozzi mon personnage préféré, c'est Cellini, hein, les ruffians, les aventuriers, les condottières, etc. etc. Marianne Médicis, elle a aucun écart de langue, elle écrit comme la jeune fille naïve qu'elle est. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas plus d'écart, à mon avis, qu'entre Merteuil et Cécile Volange. Catherine de Médicis et Marianne Médicis, mais il fallait qu'il y ait cette homogénéité. Ceci dit, par exemple, simplement, c'est des petites touches subtiles. Par exemple, Marianne Médicis est le seul personnage qui dit « malgré que ». Malgré que, qui n'est pas, d'après l'Académie, c'est pas clair ce truc. Hein. Malgré que, c'est pas une faute de français, mais enfin, ça sonne bizarre quand même. Normalement, c'est bien que, quoi. Hein. Malgré que, on est à la frontière, voilà. Bon, et ben parce qu'elle, justement, elle n'est pas finie, c'est une jeune femme, sa formation n'est pas terminée, et ben elle a ces petites maladresses de langue que Catherine de Médicis n'aurait jamais, jamais. Inversement, par exemple, Michel-Ange, je vous disais, un Michel-Ange dans sa correspondance, mais Michel-Ange était, bon, c'était pas un personnage facile, il est très sec. Bon, voilà, c'est le seul qui peut terminer par et voilà, je n'ai plus rien à vous dire, parce que c'est comme ça qu'il terminait ses lettres, et voilà, je ne vois plus rien d'autre à vous dire. Un même personnage ne s'adresse pas de la même façon à son ami ou au duc. Vasari, voilà, avec Borghini, même des fois, il dit, bon,
Voilà. Et le duc, c'est votre excellence, votre éminence. Alors, se peut-il que... Alors, je me permets, etc. C'est beaucoup plus chantourné et beaucoup plus courtisan. Donc en fait, il y a des variations, mais qui ne sont pas, évidemment... Il ne faut pas s'attendre à Molière, Don Juan, les paysannes, les... Voilà, c'est-à-dire... Hein, par définition, parce que dans une pièce de théâtre, dans Don Juan, c'est possible. Les paysannes, c'est de l'oralité. Mais à partir du moment où on sait écrire, on ne va pas s'exprimer comme la paysanne de Don Juan.
D'accord, c'est recevable.
Merci.
C'est recevable. Vous êtes reçus, mon cher ami. Merci à tous, en tout cas, et merci à tous les deux.